John, à vous entendre, il y a beaucoup de regrets. Donc, peut-être que vous avez envie de revenir à la tête de Lyon.
Non.
C'est une question faite pour provoquer. Qui a dit que je voulais revenir?
Non, c'est pas provoque du tout.
Who says I want to come back?
Mais non, mais je sais pas, au fond de vous, vu que c'est. John, c'est une question légitime. C'est une question légitime parce que à vous entendre depuis le début, moi j'écoute et merci de vous livrer comme ça. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un délit de sale gueule. Donc on voulait vous évincer et mettre une autre tête à la tête de Lyon. Mais au fond de vous, vu que vous avez fait beaucoup de bonnes choses, peut-être que vous avez envie de revenir, c'est tout.
Je ne sais pas ce qui vous a donné cette impression. J'apprécie la question. J'adore le Brésil. 30 jours avant la première audience devant la DNCG, j'ai dit à Michel qu'elle devrait sans doute rejoindre l'aventure. C'est devenu une évidence quand est arrivée la relégation administrative. Vous ne m'aviez pas vu récemment, je ne parle que maintenant, premièrement parce que le club va bien, et deuxièmement parce que ça m'a énervé de lire ces articles sur des transferts fantômes. Les supporters lyonnais peuvent être furieux contre moi, parce que j'étais tellement provocateur, tellement disruptif, j'ai irrité trop de gens dans le football français, ce sont mes erreurs.
That's where my mistakes lie. But don't come to me and tell me that player transfers.
Mais ne me dites pas que les transferts de joueurs n'étaient pas bons pour le club. Ce sont des transferts. Les versements transferts étaient là. Mais au moment où ces joueurs ont été vendus, l'OL a reçu chaque euro associé au fait de posséder ces joueurs. Aujourd'hui, Botafogo a envoyé 146 millions d'euros à l'OL. L'OL en a reversé 40. Il reste 104 millions envoyés par le groupe Eagle pour l'aider, en plus de l'argent versé lors du rachat.
40 million back. There's 104 net cash that was sent from the Eagle Network to help OL.
Nous avons financièrement soutenu l'équipe. Je n'ai aucune intention de revenir faire de la politique dans le football en France. Michel se débrouille mieux et le club est en meilleure forme à cause de cela.
Michel is much better at it and the club is in much better shape as a result of it.
Au-delà de la forme, ce qu'on vous reproche aussi à Lyon, c'est d'avoir détruit en quelques années ce qui avait été construit en plusieurs décennies. Je pense notamment au centre de formation, à tout ce qui a été vendu. Je pense à l'Arena aussi qui a été cédé. C'était pourtant un fonds comme ça.
À Jean-Michel Aulas.
À Jean-Michel Aulas d'ailleurs, un fonds immobilier qui aurait pu rapporter de l'argent à Lyon. La section féminine aussi.
No offense, but this is a bit like a tabloid show. All you're doing is
sans vouloir vous vexer, on se croirait dans l'émission d'un tabloïd. Vous ne faites que répéter des rumeurs. Posez-moi une question précise, je ne lis pas la presse ici.
I don't read the press over here.
Mais c'est notre rôle de vous mettre devant vos contradictions.
You're not doing your job.
C'est votre discours.
Posez-moi une question précise, vous ne faites pas votre travail, vous relayez des rumeurs. Dites-moi ce que j'aurais mal fait.
Est-ce que l'Arena a été vendu? Pourquoi avoir vendu l'Arena lorsque vous étiez propriétaire de l'Olympique Lyonnais par exemple?
First of all, it was already sold. It was not on the balance sheet.
Elle était déjà vendue. Ce n'était pas dans le bilan financier. Ça a fait partie d'une cession bail. Le propriétaire la vend à un tiers et accepte de payer le loyer. Cette décision était prise avant mon arrivée.
So that decision was already made before I arrived. It's a sale lease back.
À notre arrivée, l'argent issu de la vente sert à rembourser l'emprunt de sa construction. Seulement à la fin, nous pouvons l'utiliser. Nous payons un loyer.
We then operate it. We have to pay rent.
Et ce contrat a été inséré dans nos finances parce qu'il y avait une provision dans le contrat qui nous imposait à la fin de le rembourser. Donc cette obligation de 90 millions n'a pas été montrée sur le bilan, mais c'était une dette de 90 millions d'euros. Je l'ai remboursée. Ce n'est pas sur le bilan. Et les premiers spectacles commencent à se produire et nous avons grandement sous-estimé le coût de production d'un spectacle. Les ventes de tickets arrivent, les coûts arrivent, on dirait qu'on va être considérablement moins profitable. Et je calcule ce qu'on va obtenir du stade, je regarde ce 90 millions d'euros de dette. Je veux être le business du foot, moi. Cette salle divertit bien les gens à Lyon. Je ne l'ai pas détruite. Je l'ai vendue à la personne qui l'a créée.
Alors pourquoi avoir vendu la section féminine qui
Restons sur l'aréna. Est-ce que j'ai détruit l'aréna? Elle divertit bien les gens à Lyon. Je ne l'ai pas détruite. Je l'ai vendue. J'ai amené de l'argent et j'ai remboursé une dette.
And I got rid of debt.
Cela prouve que le club qu'on a récupéré perdait 120 millions d'euros par an. Le club n'était pas solvable. Il perdait 120 millions d'euros par an. J'ai dû vendre des actifs pour compenser. L'aréna existe, Jean-Michel en est le propriétaire, donc je ne pense pas que j'ai détruit l'aréna. C'est un endroit magnifique.
Avec toute votre expérience, désormais, on parlera de votre avenir dans un instant, encore au-delà de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a bien compris que votre but, c'était pas de revenir à la tête de l'OL. Quel est votre regard sur le football français que vous vouliez réformer il y a quelques mois? On se souvient des réunions un peu tendues et
un peu houleuses
et particulières avec Nasser Al Khelaifi notamment. Comment vous voyez le football français? Est-ce que vous êtes inquiet pour le football français avec toutes les problématiques financières, notamment l'absence de droits télé pour les prochaines années?
Oui, évidemment que cela m'inquiète. Je suis toujours actionnaire majoritaire de ce club. La télévision est vraiment le plus gros problème. Je n'aimais déjà pas l'ancien accord des droits télé. Je trouvais que le niveau des revenus n'était pas suffisant. Je pense que le football français est séduisant. Il est attractif pour le monde entier. Nous avons la meilleure équipe du monde, le PSG, qui impressionne tout le monde. Pourquoi nos revenus télévisés internationaux sont-ils si faibles? Pourquoi n'avons-nous pas d'accord national qui intéresse vraiment quelqu'un? Je suis le seul propriétaire arrivé dans le football français dont la fortune a été bâtie grâce au streaming de matchs de football à la télévision. C'est exactement ce que faisait mon entreprise, Fubo. Ça ressemble beaucoup au football, non? Pourquoi je n'ai pas pu avoir davantage d'influence ou jouer un rôle plus important dans la discussion sur ce que devrait être la prochaine plateforme? Ça, c'est à la Ligue d'en décider. Quand ils ont finalement fait venir quelqu'un pour prendre ce sujet vraiment au sérieux, c'était clairement un homme de la télé traditionnelle. Moi, je pense qu'on aurait dû aller à fond sur une plateforme globale, maximiser l'audience, la distribution de nos contenus dans le monde entier, que les gens payent via des micro-abonnements ou par la publicité. Les millions et les millions de personnes que l'on peut toucher via les nouvelles plateformes vont largement dépasser les revenus que l'on obtiendra avec la diffusion télé traditionnelle. Le problème, encore une fois, désolé les gars, c'est que je suis un réformateur américain. Je suis un perturbateur. On ne débarque pas en France en disant aux gens ce qu'ils doivent faire en s'attendant à être bien accueillis. Moi, je ferais la télévision autrement. Je n'aurais pas de DNCG. J'aurais un prix de vente, des règles comptables claires et simples. Pourquoi avons-nous un groupe de bénévoles qui examine le modèle économique et décide? Donc voilà, ce n'est simplement pas fait pour moi. La France, en revanche, c'est pour moi. Je l'aime. Je viens souvent à Paris. Lyon, j'adore Lyon. J'aimerais y retourner quand ce sera un peu plus sûr, d'accord?
John, l'année se termine avec la Coupe du Monde aux États-Unis. On peut pas vous laisser partir sans parler de la Coupe du Monde aux États-Unis. Pour vous, l'Américain que vous êtes, est-ce que vous sentez une excitation particulière avec cette Coupe du Monde? Est-ce que vous-même, vous êtes excité de voir cette Coupe du Monde sur aux États-Unis?
Look, I watch football. Like people get.
Je regarde du football, les gens me voient apparaître à un match de Charlton Athletic et ils se demandent ce que je fais là. Si je suis dans une ville et qu'il y a du foot, j'y vais. Que ce soit des U15 ou une équipe professionnelle, ça m'est égal. Donc je suis très enthousiaste à l'idée que ça arrive. Je suis vraiment déçu par le public américain lors de la Coupe du Monde des clubs. Moi j'ai trouvé que c'était l'un des événements les plus spectaculaires. À certains égards, c'était même plus intéressant pour moi. Il y a évidemment la fierté nationale de la Coupe du Monde, qui est immense et chargée d'histoire, mais la Coupe du Monde des clubs, elle permet de voir des équipes qui s'entraînent ensemble toute l'année. On peut comparer le niveau d'un pays et d'un championnat face à un autre pays et un autre championnat. Et c'est assez remarquable, surtout pour moi, en tant que fan du talent sud-américain, de voir à quel point les équipes brésiliennes ont été performantes. Sur certains aspects, c'était un événement plus intéressant et le public américain avait à peine la motivation de se lever pour aller voir un match du PSG. J'adorerais voir la Coupe du Monde des clubs organisée tous les deux ans. Je pense que les gens finiront par comprendre. Je ne suis pas sûr que les États-Unis comprennent vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la vraie Coupe du Monde. Je pense que les stades seront pleins, mais grâce aux étrangers. Donald Trump fait beaucoup de bruit autour de la FIFA, mais je ne pense pas qu'il remplira les tribunes.
I don't think he's going to fill the seats.
Vous, John, l'homme d'affaires américain, qu'est-ce que vous pensez de l'innovation mise en place par la FIFA? Officiellement, des pauses hydratation lors de chaque mi-temps. Officieusement, l'envie de vendre de la publicité en pleine rencontre. Donc, une pub en première mi-temps, une autre en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est formidable d'un point de vue marketing ou est-ce que c'est dommage pour le consommateur?
I don't know. I honestly don't know how they're going to be doing it.
Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont gérer la diffusion. Est-ce qu'ils vont faire du picture-in-picture avec des publicités? Ils ne feront pas de coupure, mais je ne sais pas. Écoutez, je pense que le numérique permet de faire énormément de choses avec les insertions digitales. On peut avoir des bannières et tout un habillage qui apparaissent différemment à la télévision de ce qu'ils sont réellement dans le stade, ce qui permet de personnaliser le contenu et la publicité pour les spectateurs du monde entier. Je pense que ces solutions peuvent augmenter de manière spectaculaire les revenus sans nuire à l'expérience de visionnage. La caméra peut rester simplement focalisée sur le football. Si vous décidez d'aller vers des coupures publicitaires, par exemple au Brésil, ils utilisent un écran partagé. C'est la même publicité à chaque fois. J'aimerais d'ailleurs qu'ils trouvent plus d'annonceurs. Mais au moins, pendant quelques secondes, j'ai encore la moitié de l'écran qui montre le match. Je ne sais pas exactement comment ils vont faire. Ils doivent impérativement injecter davantage de revenus dans le football parce qu'on ne génère clairement pas assez aujourd'hui pour que l'ensemble des clubs dans le monde soit économiquement viable.
La crainte qu'on a en Europe et ici en France plus particulièrement, c'est de voir un président américain, Donald Trump, beaucoup trop interventionniste, le voir partout sur cette Coupe du Monde, prendre des décisions à la place de la FIFA et de Gianni Infantino. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver de voir Donald Trump comme ça intervenir sur n'importe quel sujet qui concernera la Coupe du Monde?
Je ne fais pas particulièrement attention à Donald Trump. Je vis dans un très petit immeuble dans le comté de Palm Beach et ses deux fils, Donald Jr. et Eric Trump, viennent d'emménager dans mon immeuble. Il y a des véhicules des services secrets qui bloquent ma place de parking, celle avec le petit logo de Eagle Football, et malgré ça, ils se garent quand même dessus. Donc, mon problème avec Donald Trump, ce sont surtout ses enfants et le fait qu'ils prennent mes places de parking. Je vois toute la couverture médiatique autour de cette soi-disant bromance qu'il entretient avec Infantino. J'aime bien Infantino, je l'ai rencontré, mais ce qui se passe exactement entre Trump et lui, je n'en sais rien. Ça ressemble surtout à un coup de communication. Toi, tu sais sûrement bien mieux que moi ce qu'il y a réellement derrière. Moi, je ne sais pas, je m'inquiète juste pour mes places de parking.
John, merci beaucoup. En tout cas, c'était très sympa. Et vous n'avez pas voulu répondre à la question de Benoît, à savoir si vous étiez encore le boss de l'Olympique Lyonnais. Nous, on a compris, vous êtes encore le boss de l'Olympique Lyonnais. Merci, John.
Non, I'm not the boss.
Non, je ne suis pas le boss. Je ne prends absolument aucune décision en ce moment, à part, par exemple, décider d'allumer ou non ma télé.
Je suis
fier d'être le propriétaire et je souhaite le meilleur à Michel.
Merci
John Textor.
Merci beaucoup.